Est-ce que j'ose être moi-même? Alors, à travers ces questions un peu, comment dire, d'alcoolique anonyme, si vous les prenez un peu au sérieux, c'est vrai. Est-ce que vous vous construisez un personnage? Moi, je connais des personnes qui sont toujours dans la construction. Ça doit être fatigant. Il y a toujours un recul dans ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent, mais systématiquement. Ils se créent un personnage. Or, dans un couple, si vous êtes encore en double tiroir, un tiroir à double fond, il faut... C'est possible, hein, vous avez des mariages arrangés, tout ça, mais de nos jours, on est en 2018, hein, donc... Est-ce que je me sens libre du regard des autres? Ça, c'est la profonde conscience du vrai et du faux. Et ça dépasse Psychologie Magazine, ici. Être libre du regard des autres, c'est de croire quelque chose de vrai ou de faux, même si la majorité pense le contraire. Et... Est-ce que je me donne la permission d'avoir une vie intérieure personnelle ou est-ce que je communique tout à l'autre? Ah. Qu'est-ce que c'est, ça? C'est, dans la liberté personnelle, voyez-vous, tout dire ou se réserver quand même quelques pensées très personnelles et qui, dans les siècles passés, étaient confiées soit à une personne sage, soit au prêtre. Et d'une manière plus particulière, par rapport à la culpabilité personnelle, en confession. Depuis que les gens ne se confessent plus, ils vont chez les psychologues, c'est 80 € la demi-heure, 100 € pour le psychanalyste et 35 € remboursés chez le psychiatre. Ici, c'est gratuit au moment de la confession, et puis une fois par an, on vous demande de contribuer par le denier du culte. C'est plus indolore, et puis vous avez... Si vous payez des impôts, c'est 2/3 de réduction fiscale en attendant samedi prochain et l'écroulement de la Sainte République laïque par la dévastation d'Élysée par une foule hirsute et énervée. En attendant, si vous voulez, ici, l'importance de la confession, c'est l'importance de votre vie personnelle avec ses vraies culpabilités, ses vraies frustrations et ses vrais désirs. Et si vous allez chez un psychanalyste, ça vous coûtera donc 100 € la demi-heure, et pendant 5 à 10 ans, il vous fera dire toutes vos frustrations, tous vos désirs et tout ça, mais il ne vous dira rien. Parce que l'important pour lui, c'est que ça tombe. La seule thérapie, éventuellement, c'est que vous parliez. Mais à un moment donné, comme il ne vous dit rien entre ce qui est bien et mal, vrai ou faux, le prêtre, lui, de temps en temps, vous voyez, après vous avoir écouté, il va me dire « ta, ting, tac ». Pourquoi? Mais parce qu'il a la révélation de la bonne nouvelle, des 10 commandements vécus dans l'amour et des béatitudes. Les pauvres en esprit, ceux qui ont faim et soif de la justice, les pacifiques, les doux, les purs. Et tout cela, voyez-vous, sans vous demander d'être Mère Teresa ou le Padre Pio, ils vont vous dire des vérités sur les vertus, sur le vice, sur la vérité, l'erreur, le bien et le mal. Et donc, lorsque vous donnez à quelqu'un, de là à en faire le confident de toutes vos pensées, il y a un pas. Vous pouvez très bien faire de votre époux ou de votre épouse votre confident complet. Il faut être solide. Pendant des siècles, on est passé par les sages, on est passé par les prêtres. Et c'est parfois plus prudent. Mais comme on ne passe plus par les sages et par les prêtres, on passe par la sécurité sociale. Voilà. C'est un gros gâteau. Surtout la dépression. Ça, c'est la machine à sous actuellement. Aimer l'autre demande de s'aimer soi-même. Ah, ça, c'est très important. Et pour s'aimer, il est bon de savoir progressivement qui l'on est, quel est le sens de sa vie. Osons rechercher la vérité sur soi-même pour mieux aimer l'autre. On ne peut pas aimer les autres si on n'a pas un minimum d'amour pour soi-même, de considération pour soi-même. On ne doit pas s'estimer comme perdu, ou nul, ou mauvais, ou cynique. Parce qu'à ce moment-là, on n'aimera pas les autres. Mais il faut un minimum de fierté, il faut un minimum d'espérance pour soi. À moins qu'on soit vraiment au fond du trou et qu'à ce moment-là, on appelle à l'aide. Mais si vous voulez, il faut avoir de l'estime de soi. C'est tellement vrai que même de nos jours, on le dit aussi dans Psychologie Magazine. Vous voyez, donc c'est une vérité à travers les siècles. Vous voyez, c'est... comment dire, charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut avoir de l'estime de soi et du coup avoir la volonté de se maintenir. Vous voyez, quand quelqu'un tombe bas, il ne se lave plus. Par exemple. Vous voyez, je ne sais pas, je crois que vous l'avoir dit, je ne donne en aumône qu'à ceux qui sont dans la merde. Et alors je regarde leurs chaussures et leurs mains. Si leurs chaussures sont pourries et leurs mains sont sales, alors je leur donne une pièce. Je leur donne quelque chose, ou j'essaie de leur donner à manger, ou je vais me bouger pour eux. Parce qu'ils sont dans la merde. Ils sont vraiment... ça ne va pas. Quand vous avez... alors vous allez me dire, oui, mais vous avez un critère un peu dur, parce qu'il y a des gens qui, justement, font l'effort d'être propres, font l'effort de... Et bien justement, s'ils font l'effort d'être propres, c'est qu'ils connaissent des structures, c'est qu'ils peuvent être aidés d'une autre manière. Et alors vous allez me dire, mais c'est vraiment très restrictif. Oui, mais si vous voulez, vous êtes tellement sollicité dans la rue que pour le coup, voyez-vous, d'autres personnes vont donner à des personnes propres, et dans l'ennui, véritable, j'espère. Mais pour ma part, voyez-vous, quand on n'a plus d'estime de soi, quand on se laisse complètement aller, on a vraiment besoin d'aide. Et donc vous n'allez pas aller jusque-là, enfin le jour où hein, vous allez le dire, et donc ça c'est très important. Et cette estime de soi va aussi donc dans la vertu, dans une légitime fierté, et donc dans la connaissance aussi de soi-même, quels sont les domaines qui me passionnent. Y a-t-il des aspirations profondes qui sommeillent en moi et que je n'ai pas pu développer jusqu'à présent? Suis-je heureux? Ah, j'en conviens, hein, c'est aussi dans Psychologie Magazine, c'est même des titres en général. Hein, êtes-vous heureux, machin, tout ça, donc on achète le magazine. Et puis il n'y a rien, pas grand-chose. Suis-je heureux? Le bonheur n'est pas quelque chose de toujours subjectif. Hein. Le bonheur, c'est... d'avoir le sentiment général et intellectuellement une certaine certitude. Il y a une différence entre la certitude intellectuelle et le sentiment qui est plus diffus, plus sentimental, n'est-ce pas ? D'être en paix, que les choses sont à leur place. La définition en philosophie de la paix, c'est la tranquillité de l'ordre. Tout est à sa place. Vous avez rangé l'appartement, tout est propre, vous avez terminé un travail, vous asseyez. Vous vous êtes réconcilié avec quelqu'un, vous avez défait un nœud, et vous êtes heureux. C'est bête, mais c'est ça. Car l'objet du bonheur, c'est le bien. C'est pas quelque chose d'abstrait. Dans son travail, dans son loisir, dans sa vie professionnelle. On verra plus tard. Comment cela se manifeste-t-il? Quelle est votre humeur? Est-ce que vous souriez? Est-ce que vous riez? Est-ce que vous chantez? Est-ce que vous dansez? Quelle est ma propre définition du bonheur? Voyez? Eh bien, Dieu, lui, vous dit que le bonheur est dans la bonté, dans la bonne action du scout. Multiplié. Alors, c'est bébête comme ça, mais nous ne sommes heureux que lorsque nous faisons le bien. Qu'est-ce qui me fait vivre aujourd'hui? Lors de quelles circonstances ai-je été le plus touché par la beauté ou la grandeur de la vie? C'est beau. Vous voyez? Qu'est-ce que j'aime en moi? Bon, vous pouvez penser que c'est une question d'alcoolique anonyme, mais c'est pas mal. Estime de soi. Le couple ne vous l'a-t-il pas dit la dernière fois? Je crois. Dans les thèmes qu'ils abordent, il y a le fait de... Pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Qu'est-ce que je n'aime pas en moi? Ai-je confiance en moi? Dans le mariage, il y a tout un travail de confiance. Et ce qui est extraordinaire, est un des fruits du mariage, c'est que l'époux ou l'épouse aide à cette confiance, donne confiance, rend confiance. Ça, un couple qui avance, c'est un couple qui s'aide mutuellement. Vous voyez, à reprendre confiance en soi, si l'époux ou l'épouse le fait, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment le couple. Quels sont les domaines où j'ai le moins confiance en moi? Quel effet le mariage aura-t-il sur ces problèmes? Avez-vous des problèmes? Manque de confiance? Voilà. Comment est-ce que je me montre aux autres habituellement? Tout ça, c'est votre maturité intellectuelle, votre maturité dans la volonté. Est-ce que vous avez des amis? Parfois, dans le mariage, on élimine les amis des uns, de l'un ou de l'autre. Et parfois, il y en a qui avaient du mal à avoir des amis, qui sont tout contents de trouver une âme à aimer, mais qui sont frileux pour avoir des amis. Et l'autre doit faire attention à si lui ou elle avait une facilité à nouer des amitiés. Tout ça, ça fait partie de votre personnalité. Dans ma vie de célibataire, y a-t-il certains domaines dont il me semble important de me séparer? Vous voyez, d'habitude qui vont blesser la vie à deux. Parce que vous avez des gens qui, même en couple, se comportent comme des ours. Et vous me direz, c'est toujours l'homme? Ah oui, il y a des femmes qui ont des habitudes de célibataire. Mes parents et ma famille ont-ils une influence sur moi? Ça, c'est pour votre liberté. Alors, figurez-vous que je ne vois pas en vous ce genre de difficulté. Mais quand vous avez à préparer des couples de 22-23 ans et que les parents sont furieusement opposés au mariage, il faut creuser. Mais ce n'est pas votre cas. Je ne pense pas. De toute façon, c'est lors des entretiens que vous avez dit « Oh, ma mère ne viendra pas au mariage et tout. Ouais, » J'ai toujours voulu couper le cordon médical et ils ne veulent pas, et ils ne viendront pas, machin, et j'en ai marre et tout. 80 euros. Mais, je croyais que c'était l'église. On vous donnera un reçu fiscal, ça sera denier du culte. Hein, parce que moi, Quelle relation ai-je avec ma mère, avec mon père? Pauvre Freud. Mais quand c'est vrai, une mère possessive, un père... Alors quand vous avez un père qui ne veut pas lâcher sa fille, waouh, j'ai vu. Et là, franchement, c'est difficile. J'ai eu trois longues conversations avec un père sur cette question. C'était irréel. À la fin, je lui ai quand même dit ce que j'en pensais. Il s'est vexé. Bon, ça a l'air de s'arranger. Reproduction de schéma, hein. Lui-même, quand il s'est marié, ses parents étaient opposés à son mariage. Et alors, Freud avait raison? Non. Freud, c'est toujours sous la ceinture. Il pense qu'il y a ça. Il a guéri personne. D'accord. Durant ma jeunesse, quel rôle ont-ils joué, mes parents? Qu'est-ce qui me paraît le plus essentiel à garder, à développer? Qu'est-ce que j'aurais su de ma famille? Y a-t-il des modèles de couple que j'aimerais imiter, que vous avez pu rencontrer? Ça, c'est la question gentille. Parce que sinon, il y a la jalousie. Vous avez des personnes dans des couples qui sont jaloux d'autres couples. Hein, et ça devient une fixette. Hein. Non. Pas de jalousie. Chaque couple est différent. Vous n'avez pas... Il peut y avoir une émulation si vraiment vous voyez un couple avec des qualités objectives que vous aimez et que vous aimeriez imiter. D'où les canonisations, d'où les saints. Qu'est-ce que fait l'Église à ce moment-là? Il dit, voilà, telle personne a eu un parcours de vie qui est imitable. En quoi je veux les imiter? Suis-je à l'aise dans la famille de mon fiancé, de ma fiancée? Ce à quoi je réponds toujours, on ne se marie pas avec la belle famille. Seulement, il est contraire à la charité de ne jamais plus voir la belle famille. Ou alors, une fois par an, à Noël ou au jour de l'an. Et jamais nos enfants, jamais ta mère s'occupera des enfants. Ai-je le sentiment qu'il me faut épouser une famille entière? Est-ce que je souhaite couper tous les liens entre mon fiancé et sa famille? Qu'est-ce qui me fait souffrir dans la famille de mon fiancé et de ma fiancée? Je vais leur servir un plat de champignons, et ça va faire comme dans Sacha Guitry. C'est un vieux film, donc vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez vu. Suis-je à l'aise avec les amis de mon fiancé? Quels sont les points qui m'empêchent d'être authentique et d'être vrai? Tout ça, c'est la maturité, c'est la connaissance de soi-même, et nous allons continuer pour vous achever. Être à l'écoute de l'autre? Suis-je prêt à vraiment respecter le jardin secret? Est-ce que j'essaye de promouvoir la liberté, de découvrir et d'épanouir ses talents? C'est un business model. Ai-je pris conscience que je dois aider dans la recherche d'une vie intérieure et spirituelle tout au long de sa vie? Oui. Ça, si vous êtes venu chercher un mariage religieux, il faut quand même que vous ayez une dimension surnaturelle dans votre couple. Qu'à un moment donné, vous soyez prêt à prier et vaincre l'ambiance depuis des décennies, hein, qui consiste à être gêné par la prière et d'oser même prier ensemble. Ça vous fait... On vous a tellement persuadé que la religion est du pur domaine personnel et privé que même en couple, on n'ose plus prier. Alors, quand vous avez des familles qui disent le chapelet ensemble et tout ça, vous dites, ah oui, mais bon, c'est des cathos, machin. Non, c'est... Prier, c'est quelque chose de très spirituel, et vous êtes baba devant un reportage sur le bouddhisme, et vous voyez un couple et là on est éclairé, on a atteint la bouddhéité ensemble et tout, et vous êtes là, si vous voulez, les journalistes vous présentent ça comme quelque chose d'absolument extraordinaire. Et par contre, vous avez un couple de chrétiens qui disent le Notre Père ensemble et dit donc séjour chez les intégristes, c'est... Il y a quand même quelque chose de bizarre à ce que la spiritualité chrétienne soit forcément quelque chose de bizarre. Vous voyez, sans forcément devenir charismatique. Et là, vous évitez l'intégrisme. Les journalistes arrivent. Voilà, on est de la communauté d'Emmanuel et on est tellement heureux. Le matin, on fait une louange et Et le soir, on se repose dans l'esprit. Donc, si vous voulez, comment dire, il faut un minimum aussi de foi. Justement, il y a une vie après la mort, Dieu s'est fait homme. Vous êtes des êtres capables de générosité, capables de croire dans l'invisible. Dans votre vie, parfois, peut-être que vous verrez des coïncidences impossibles qui sont des signes de Dieu et qui vous toucheront et qui vous pousseront à vous à être plus spirituel, plus croyant, plus religieux. Dans notre couple, comment l'amour s'exprime-t-il le plus ? Sentiment, intention, parole, geste ? Suis-je prêt à renoncer à tel ou tel désir personnel pour le bien de mon conjoint ou de notre couple ? Pour la vie professionnelle, les enfants, les loisirs, ça c'est un peu, comment dire, ça empiète sur d'autres développements, mais là, si vous voulez, c'est ce qui va permettre l'unité dans le couple. Comment vous allez ne pas divorcer ? C'est ça. Là, on est passé, si vous voulez, du point 1, la liberté et l'engagement et sa sincérité, et la fidélité et l'unité. Pour rester fidèle, il faut se connaître. Que signifie pour nous de nous engager pour toute la vie ? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein ? Avons-nous déjà eu l'occasion de nous engager ? Vous vous rendez compte ? L'unité, la fidélité pour toute la vie ? Enfin, je ne sais pas si tu... Tout le monde vous dit le contraire actuellement, toute la société vous dit le contraire. Comme dit Jacques Attali, un grand, grand sage, un docteur de l'Église, hein, bien connu, il dit c'est un dernier droit bourgeois, n'est-ce pas, que l'indissolubilité du mariage. Il dit l'euthanasie sera un des piliers de la société moderne. Car la vraie liberté, c'est le suicide. C'est quand même un homme plein de sagesse, n'est-ce pas ? Plein de richesse, n'est-ce pas ? Eh bien non, la véritable richesse, c'est la persévérance. Et n'ayez pas peur de vieillir ensemble. Au contraire, plus nous sommes fidèles à des engagements comme cela, et plus on est humain. Ensuite, voyez-vous, il est bien évident que si l'un d'entre vous devient hyper violent, alcoolique, tout ce que vous voulez, il y a la séparation de corps. Si la vie devient absolument insupportable. Et si vous êtes dans les créneaux de la nullité du mariage, c'est-à-dire dans les 3, 5 ans, 7 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans, ça ne va pas marcher. Et... Mais s'il y a un gros problème, là, si c'est au-dessus de vos forces, il y a quelque chose qui peut éventuellement être examiné et discerné. Mais en règle générale, dans la nature humaine, et dans l'amour humain, et dans la confiance, et dans l'espérance, et dans la grâce, et dans la force de Dieu, on peut surmonter nos querelles, nos incompréhensions, nos routines, nos fatigues. Et là, j'ai rencontré d'ailleurs quelqu'un qui me l'a redit récemment. C'était assez impressionnant. C'est un professeur d'université qui était là, qui faisait une conférence et qui disait « Rien n'est définitif. Aucun obstacle est insurmontable dans la vie de couple. » Mais elle l'a dit avec une telle force de conviction, c'était bravo mon père. elle était plus convaincue qu'un prêtre. C'était extraordinaire. Sur quoi va reposer la force et le soutien de notre union ? Allez. Si c'est uniquement sur votre jeunesse, à un moment donné, vous serez moins jeune. Et si un jour on prépare, alors les couples de 80-85 ans, on ne les prépare pas en réunion. Voyez-vous, il y a des couples de 80-85 ans. Alors, quelle est leur unité? Ben, ils se donnent l'un à l'autre pour être le soutien l'un à l'autre et pour s'aimer. Et une particularité que je veux vous donner en ce qui concerne l'indissolubilité du mariage, c'est quelque chose de particulier. Le mariage est une réalité d'amour profondément ancrée dans notre nature spirituelle, mais avec une dimension temporelle. Ce qui fait que ce don mutuel peut s'arrêter avec la mort corporelle. Et je vous en avais déjà parlé une autre fois, avec l'histoire de cette personne qui disait à son mari, qui était tombée malade et qui est morte, et qui avait demandé à un notaire de donner une lettre à son mari le jour où il se remarierait, en disant « je ne t'en veux pas ». Et donc quelques 2-3 ans plus tard, 4 ans plus tard, il avait 2 enfants, il était veuf, et il s'est remarié. Et là, il y avait le notaire qui arrive, enfin l'équivalent aux États-Unis, et qui lui donne la lettre, et elle lui dit j'espérais bien que tu te remarierais, et si tu lis cette lettre, ça veut dire que tu l'as fait, et surtout, n'aie pas de remords. Et alors, dans la religion, ce qui est très important, c'est que l'amour étant personnel, voyez-vous, si la mort interrompt l'engagement terrestre, vous pouvez rester fidèle à l'engagement spirituel et rester veuf ou veuve jusqu'à la mort et avoir cette exclusivité même dans par rapport à la vie éternelle, à la vie après la mort. Mais sachez que le mariage a quand même une dimension concrète et terrestre et que la solitude est parfois pesante pour un être humain et qu'on peut se remarier à cause de mort. C'est-à-dire que le mariage est indissoluble, naturellement et sacramentellement, mais de personne humaine à personne humaine présente. Lorsqu'on meurt, on est absent. Et cette absence, elle n'est pas forcément spirituelle, mais elle est corporelle, ça c'est sûr. Vous avez des personnes qui ont suffisamment la foi pour parler à leurs défunts sans faire de la chiromancie ou sans faire de l'obsession. Il y a des personnes qui, très simplement, parlent à un époux ou une épouse défunte, dans les limites de la prudence que demande la religion. Faites attention de ne pas devenir fou. Faites attention de ne pas parler tout seul, en fait. Faites attention que ça soit des choses très simples et personnelles et que ça ne soit pas long et obsessionnel. Mais vous pouvez parler à des morts. Nous parlons à des saints qui sont morts. Et nous parlons à Jésus. Vous allez me dire, il est ressuscité. Même. Nous parlons à la Vierge Marie qui a vécu une dormition. Et la Vierge Marie, qui a été dans son séjour terrestre pendant environ 70 ans, il y a 2000 ans, régulièrement vient nous visiter pour nous encourager à croire. Vous voyez ? Mais Catherine, qui était une religieuse des Sœurs de la Charité rue du Bac, qui a fait son noviciat rue du Bac, non seulement elle a vu la Vierge Marie, mais la Vierge Marie est apparue en corps et en âme à rue du Bac, hein, c'est-à-dire qu'elle avait son corps. Elle a marché dans la nef de la chapelle, elle s'est assise sur le fauteuil du prêtre dans le chœur. Et Catherine, la Vierge Marie l'a invitée à venir, et Catherine s'est mise à genoux devant elle et a posé ses mains sur les genoux de la Vierge, elle a senti les genoux de la Vierge Marie. Et si vous voulez, donc, lorsque nous aimons quelqu'un et qu'il meurt, on peut lui parler. Mais il faut que ça soit dans les limites de la raison et de la foi. Mais alors on peut se remarier parce que l'absence est difficile. La solitude est difficile. Vous pouvez, de manière spirituelle et quelque peu romantique, ne pas vous remarier alors que vous avez 35 ans. Mais c'est pas évident. Moi, je connais une femme comme ça qui a été veuve de guerre, hein, elle s'est jamais remariée. Elle a attendu, et puis à sa mort, elle a sans doute retrouvé son époux. Alors vous allez me dire, mais puisque vous nous permettez d'avoir une polygamie successive, ou une polyandrie successive, est-ce que c'est pas contraire à ce que vous nous dites au point de vue de la charité? Vous avez Yves Semen dans ses livres qui dit « Le premier mariage, c'est le mariage vrai, et si on est veuf ou veuve, on manque à la fidélité à se remarier. » Aïe, ça c'est de l'hyperspiritualisme, il faut faire très attention. Le mariage est une réalité de la vie terrestre. On a en face de nous une personne humaine avec une âme et aussi avec un corps. Donc on peut se remarier. Et vous allez me dire, mais alors, dans la vie éternelle, j'aurai deux femmes? Non, j'aurai des êtres aimés. De la même façon que lorsqu'on a plusieurs enfants, on n'est pas poly, comment dire, poly-enfant. Enfin, c'est, voilà, on aime cet enfant, on aime cet enfant, on aime cet enfant. Et on aime cette personne, on aime cette personne, on aime cette personne. Et donc l'amour est personnel. Et dans la vie éternelle, l'amour sera personnel. Et il n'y a aucune jalousie dans la vie éternelle. Parce que l'amour est uniquement dans la vérité, dans la vie éternelle. Il n'y a pas de comparaison, c'est l'être aimé qui est devant soi qu'on aime. C'est ce qu'arrivent à faire, normalement, on l'espère, des parents. Alors vous avez des enfants qui sont là, oui, c'est ce que vous dites, hein. Enfin, maman, elle a toujours préféré... Mais c'est souvent vous qui êtes jaloux. Parce que, bien souvent, plus que vous ne pensez, les parents aiment de manière égale leurs enfants. Pourquoi ? Parce qu'ils aiment ce monde-là. Parce que même des vrais jumeaux sont totalement différents. Parce que l'histoire de l'âme est différente. Même s'ils ont exactement le même corps, exactement les mêmes, au début, les mêmes nervosités, les mêmes, parce qu'ils ont le même corps, par leurs différents choix, ils pourront différer au point de vue caractère, ayant le même corps. Donc, voyez-vous, votre amour, il est personnel. Et donc, les moyens humains ou religieux, divins, que vous allez choisir pour vous aimer, c'est-à-dire l'intelligence, la prière, la confiance, le saut dans le surnaturel, parfois, eh bien, tout cela est à votre disposition.